Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, bienvenue dans Clap, votre rendez-vous cinéma sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de l'actualité des sorties salles. Et comme dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Dans Clap, c'est le cinéma qui trouve son chemin. Alors à quelques jours du coup d'envoi du 75e Festival de Cannes, nous reviendrons sur les montées de marche les plus attendues de la quinzaine, les événements en préparation, les films à découvrir. Bref, on vous donnera un maximum d'informations en avant-première, si possible, c'est toujours mieux. Didier Allouche nous livrera son JT d'Hollywood. Et puis à 14h20, je recevrai l'humoriste Artus pour parler de la comédie « J'adore ce que vous faites » où il joue aux côtés de Gérard Lanvin, un fan un peu trop collant, on va tout vous dire. Enfin, ils sont là, ils ont sorti leur plus belle chemise à fleurs, je dirais leur plus beau costume même, ou smoking, enfin bon.
Oh là là,
ouais, y en a un en tout cas
c'est
qui...
C'est rien à côté du physique que tu portes, Laurie. Tu sais que Jimi Hendrix vient d'appeler, ils veulent le récupérer. Hein.
Moi personnellement, j'ai perdu moins 3 à chaque œil. Mais
ça y est, il se moque.
Allez vite voir ça sur internet, parce que
c'est le printemps, c'est bientôt l'été, c'est voilà, ça met de bonne humeur. Franck Vallière, Victor Bonnefoy en pleine forme.
Tout
Victor qui se prépare à partir au Festival de Cannes.
Quelle hâte. Je vais vous perdre pendant 2 semaines, vous allez me manquer très très fort, mais on se retrouvera peut-être.
Bah surtout la semaine prochaine, on va faire ensemble une spéciale Cannes.
Trop bien.
Il veut déjà
hâte.
Se débarrasser de moi, c'est
non,
bien.
Non, jamais.
Et Franck, tout va bien ?
Moi je vais à la Bourboule.
Bon bah voilà, bah, c'est bien aussi. Il en faut pour tous les goûts. Et sinon, vous avez eu des coups de cœur cette semaine ? Vous avez regardé des films ou vous avez juste pensé aux distractions ?
Tout à fait. On va parler de The Northman, le retour de Robert Eggers avec des gros Vikings, c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant, mais pas tant passionnant que ça.
On va se battre, Franck.
Parfait. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
J-4 avant l'ouverture du 75e Festival de Cannes, J-4 avant que Virginie Efira, la maîtresse de cérémonie, rentre sur cette musique dans sa robe majestueuse, J-4 avant que Vincent Lindon, président du jury, nous présente son jury, et J-4 avant de découvrir de merveilleux films, on l'espère en tout cas.
Ah tout à fait, il y a du choix cette année.
Hein. Voilà. J-4 avant la première crise de foie.
Oui.
Ou la première gueule de bois, ouais c'est vrai. Bon, on va commencer en tout cas par le film d'ouverture, le très fun, et je peux l'affirmer car j'ai eu la chance de le voir, ça s'appelle Coupé de Michel Hazanavicius.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas, c'est moi qui suis les grands mecs.
C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield. Moi, j'ai adoré ce film. Donc, ça s'appelle Coupé. Ça va sortir le lendemain du coup d'envoi du Festival de Cannes. Donc, il est projeté en avant-première, en ouverture avec toute l'équipe du film. C'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. C'est décalé, c'est drôle. Ça se moque gentiment des films de genre, des films de zombies. Il y a une profusion d'hémoglobine, des cris outranciers des acteurs dans tous ces films. Et c'est une vraie belle parodie, très intelligente. C'est un énorme coup de cœur. On en reparlera la semaine prochaine, Victor.
Avec grand plaisir.
Autre temps fort du festival, très attendu, si je vous mets cette musique.
Top Gun.
Oh là là.
Là, franchement, ça marche à tous les coups.
On n'a pas le droit de parler de la suite pour le moment.
Ouais. On est tous en transe. Il y a ce qu'on appelle un embargo. C'est-à-dire que même si on a vu Maverick, donc la suite de Top Gun, on ne peut pas encore en parler. Mais ce qu'on peut dire, c'est que donc 36 ans...
On a vu Top Gun Maverick ? Franck ?
Oui, si je t'ai vu, t'étais là.
Mais t'étais là aussi, je crois. Peut-être.
Moi,
peut-être.
Je l'ai vu.
moi, j'ai vu le premier en salle, alors que toi, t'étais pas né, sans doute.
Oh, j'étais quoi ?
T'étais pas né comme les poissons.
Mais il y avait des gens avant les années 90 ?
Oui.
36 ans après la sortie de l'original, Maverick est présenté hors compétition au Festival de Cannes.
36 ans ?
36 ans.
Je suis si vieux que ça pour l'avoir vu en salle.
Et Tom Cruise n'a toujours pas pris une ride.
Oui, ça c'est ça qui est fort. Dorian Gray le mec. Hein. C'est Dorian Gray.
Il est incroyable. Donc il est présenté le film hors compétition pour ce Festival de Cannes. Il est présenté donc le 18 mai. Il sortira une semaine plus tard en France. La venue de Tom Cruise évidemment risque de créer l'effervescence sur la croisette. En tout cas, c'est un beau cadeau pour les festivaliers parce que Tom Cruise est très généreux lorsqu'il rencontre son public et généralement il prend le temps de faire des photos avec tout le monde, de signer plein d'autographes. Voilà. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de chanceux.
Reste à savoir s'il se rendra au Café Romain en face du Palais du Festival pour manger une tomate pizza. pizza.
Ça n'ira pas jusque là. Alors Victor, il y a pas mal d'autres films très prometteurs.
Oh
là, au sein de la compétition même.
J'ai une liste, je crois que je me suis listé quelque chose comme 45 films. Donc je ne vais pas pouvoir tous les citer ici. Je vais essayer de prendre un coup de cœur par jour, si ça vous va. En allant très très vite.
Okay.
On parlait de Top Gun Maverick, on a très très hâte. Le lendemain, on a le nouveau James Gray. James Gray qui revient avec Armageddon Time, ça va être passionnant. Le jour d'après, le nouveau George Miller.
Avec Anne Hathaway.
Tout à fait dans James Gray. Et le lendemain, on a Tilda Swinton et Idris Elba dans le nouveau George Miller, réalisateur de Mad Max Fury Road.
Génial.
Journée d'après, retour de Quentin Dupieux avec Fumée fait tousser, qui a l'air d'être un film de Power Rangers complètement fou. Journée d'après, alors là, je sais même pas quoi prendre. Allez, on va prendre Men de Alex Garland, qui avait déjà fait Ex Machina, qui était un film passionnant, ça a l'air génial. Après, retour de David Cronenberg avec Les Crimes du Futur, le même jour que le retour de Park Chan-wook, réalisateur de Hellboy.
Avec Vincent Cassel dans le Cronenberg.
Pas du tout. Avec,
il n'est pas dans le Cronenberg.
Non, pas du tout. Il y a Kristen Stewart, il y a Léa Seydoux et il y a Viggo Mortensen. C'est quand même tout un casting incroyable. Le jour d'après, on aura le nouveau film des frères Dardenne. Le jour d'après, on aura le nouveau Claire Denis et aussi Elvis, le nouveau film de Baz Luhrmann qui n'a pas réalisé de film depuis 10 ans.
Et Vincent Cassel sera dans le prochain.
Exactement. Le jour d'après, j'ai l'impression que vraiment c'est un jour sans fin ce festival, c'est terrible. On aura le nouveau film de Kore-eda qui avait reçu la Palme d'Or avec Une Affaire de Famille, qui revient avec Broker. Et encore le jour d'après, on aura le nouveau film de Nicolas Bedos, Mascarade, alors qu'il s'annonce comme un gros pavé.
2h20,
quelque chose comme ça, ça a l'air absolument fou. Et juste après, le festival sera terminé et moi j'irai dormir environ 2500 ans parce que le rythme va être absolument hallucinant.
Mais il y aura Clap, vous reviendrez quand même.
Peut-être, mais faudra me ramener sur une civière par contre.
Et puis Franck, le Festival de Cannes célèbre le cinéma, donc forcément les anciens films, les légendes de cinéma.
Oui, il y a Cannes Classique qui va restaurer des films et qui va présenter des documentaires. Alors on pourra par exemple revoir une version améliorée du procès d'Orson Welles, ou bien un des premiers billets, Si j'étais un espion par exemple. Mm-hmm. Et puis aussi des documentaires qui vont œuvrer vers le patrimoine du cinéma. Par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Romy Femme Libre, qui a été en partie coécrit par Clémentine de Roudy, qui est la commissaire de exposition qui a lieu en ce moment à la Cinémathèque française, qui concerne donc Romy Schneider.
Nous en avons parlé dans cette émission.
C'est absolument superbe, parce que c'est pas Romy Schneider, ses drames, sa vie, etc. C'est une femme au travail. C'est très puissant, cette exposition. Et donc, elle a co-réalisé un doc qui s'appelle Romy Femme Libre, et puis des docs qui rendront hommage à Patrick Devers, à Gérard Philippe et tout un tas d'autres choses.
Et puis La Maman et la Putain aussi.
Ah oui ! Alors La Maman et la Putain, c'est pas compliqué, c'est l'un des films majeurs des années 70, 3 heures, presque 4 heures d'un ménage à trois, avec Françoise Lebrun et Jean-Pierre Léo, notamment, qui seront donc physiquement présents. On espère que Jean-Pierre Léo ne sera pas trop émotionnellement emporté par cet hommage qui lui sera rendu. Et c'est un ménage à trois, comme on en faisait dans les années 70, disons, assez gonflé.
Mais de temps en temps, je suis content. Par exemple, maintenant, d'être ici avec vous, même si j'ai emprunté l'argent pour y venir.
Mais vous êtes fou d'être venu ici si vous n'avez pas d'argent.
Ne pas avoir d'argent n'est pas une raison suffisante pour mal manger. Quand j'étais enfant, je volais des livres. Je prétendais que la pauvreté n'est pas une raison suffisante pour ne pas se cultiver.
Et puis si je vous mets cette musique...
70 ans.
Happy birthday. Eh oui, Singing the Rain fête ses 70 ans et fêtera ses 70 ans donc à Cannes. Forcément, un mot très rapidement aussi sur le cinéma de la plage. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa pour les festivaliers, puisque le festival est accessible à tous.
C'est ça, c'est-à-dire que le Festival de Cannes a cette image de festival très refermé, très pour la presse, les professionnels. Vous pouvez aller voir des films au cinéma de la plage, et notamment celui qui est sur l'affiche du festival, le Truman Show, qui va ouvrir ce circuit du cinéma de la plage. Et on a aussi, par exemple, le Pacte des Loups, qui sera rediffusé sur grand écran en présence de Christophe Gans, en présence de Samuel Le Bihan, pour les passionnés de cinéma de genre.
Il y aura un grand karaoké. Moi, j'ai vu karaoké, je me suis dit, ok,
évidemment. Mais en fait, c'est ça le cinéma de la plage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois avoir le samedi une projection du Parrain et le lendemain une projection d'un Saint-Jean-Hiver.
Voilà, et alors j'insiste, il faut aller voir un Saint-Jean-Hiver avec une bouteille de jus de raisin.
Tout à fait.
Parce que c'est absolument monumental de pouvoir voir cette œuvre qui parle quand même de la mélancolie de deux hommes, un qui a arrêté de boire et l'autre qui continue de boire, sur grand écran avec une bouteille de jus de raisin.
On va leur peindre le ciel.
Et avant qu'il ne prenne son avion direction le Festival de Cannes, puisque lui aussi il sera au Festival de Cannes, Didier Allouche nous livre son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Demain, à 7h06, mon avion décollera pour le Festival de Cannes. Quelque chose me dit que je ne serai pas le seul dans le vol Air France 065 ce dimanche à m'envoler pour le Festival de Cannes. Ils seront nombreux, les Hollywoodiens, à revenir sur la croisette. Bon, c'est vrai, il y a bien eu un festival en juillet dernier, mais ce n'était pas vraiment ça. D'abord, Cannes, c'est en mai, pas en juillet, et puis il y avait le Covid encore présent, encore partout. Là, c'est un peu comme si c'était le vrai retour du festival. Et ce n'est donc pas un hasard si deux des plus gros blockbusters de l'été américain, Top Gun Maverick et Elvis, y seront présentés. Pas un hasard non plus si celui qui est probablement la plus grosse movie star de la planète, je veux bien entendu parler de Tom Cruise, en sera l'invité d'honneur. Pas un hasard enfin si tous les professionnels, les acheteurs, les vendeurs, les agents, les managers, les publicistes, tous les pros d'Hollywood seront sur la croisette. Il n'était pas question de rater ce Cannes. Parce qu'on le dit depuis des mois, le cinéma est de retour depuis la crise, mais nous ne sommes pas dupes, ce n'est plus comme avant. L'industrie a changé à un point et avec une rapidité inimaginable. Les salles souffrent. Je viens d'apprendre qu'un de mes multiplex préférés, le Landmark sur Pico, à 10 minutes de chez moi, allait fermer à la fin du mois. Le business est totalement différent. Les films aussi le sont. Tout est perturbé. Hollywood est en pleine transformation. Et dans ces périodes-là, on a besoin de repères. En matière de cinéma, il n'y a probablement pas de meilleur repère que le Festival de Cannes. Cannes, c'est un roc, la pierre de taille du cinéma mondial sur laquelle les auteurs et les professionnels, ceux qui font le cinéma et ceux qui en vivent, peuvent toujours se reposer. Dans les temps de crise, ces repères sont fondamentaux. Hollywood l'a parfaitement compris. C'est pour ça que le cinéma américain débarque en masse sur la croisette cette année. Et puis aussi pour faire la fête, hein, ça va nous faire un bien fou de faire la fête. La fête du cinéma, bien sûr.
Merci beaucoup Didier. Vas-y mollo sur la fiesta.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'acteur humoriste Artus qui sera à l'affiche le 18 mai de J'adore ce que vous faites. Comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin. Bonjour Artus.
Bonjour.
J'adore ce que vous faites.
Mais moi aussi j'adore ce que vous faites, ça tombe bien.
Merci beaucoup. Bon, voilà. Alors, une fois ces compliments faits, on va vraiment parler de ce film. J'adore ce que vous faites. Vous incarnez Momo, un fan un peu collant, on peut le dire.
Ouais, même bien collant.
Ouais, bien collant.
Ouais, un peu envahissant.
Mais très 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 attachant au final. Comment est-ce qu'on peut le décrire ce Momo ?
Ben c'est ça, je déteste ce mot parce que c'est vraiment le truc
le
mot à la mode, tout ça, mais il est attachant, il a ce côté,
ah oui, c'est vrai.
Il a ce côté attachant et en même temps on a envie de s'en débarrasser, mais comme il est gentil, c'est compliqué pour Gérard Lanvin.
Puis ce qui est compliqué, c'est qu'il est, il est gentil, puis il ramène au fur et à mesure sa famille, son entourage, c'est-à-dire qu'il est vraiment...
Ouais, il n'a pas de limite. En fait, comme il
c'est
est,
un package,
comme,
quoi.
Comme il s'est engagé, qu'il a dit oui aux gens, il a du mal à revenir sur sa décision. Donc, il n'y a rien qui est fait méchamment, mais il est très maladroit, il est un peu... C'est un enfant, en fait. C'est vraiment... C'est pour ça qu'aussi, physiquement, on lui a mis des... Il mange tout le temps des compotes et il a un sac à dos. C'est que c'est un enfant de 130 kilos, quoi. Et débarrasser d'un enfant de 130 kilos, c'est pas facile.
C'est pas facile. Oui, alors on va redire un mot sur l'histoire, mais c'est Gérard Lanvin qui joue son propre rôle,
ouais.
Qui vient pour un tournage et qui a un problème avec sa piscine. Et là, Momo débarque. Et en fait, il se rend compte, Momo, que c'est Gérard Lanvin. Et ben, il est fan.
Évidemment, il reconnaît Gérard Lanvin. Et en plus, c'est un... il est pas fan juste de Gérard Lanvin comme de n'importe quel acteur. C'est que c'est... C'est l'acteur qui l'observait et qui regardait quand son père était vivant, parce qu'il a perdu son papa. Et donc c'est vraiment, c'est sa Madeleine de Proust et ça lui rappelle plein de souvenirs. Donc forcément, il ne va pas le lâcher aussi facilement que ça.
Il ne veut plus le quitter, donc il va s'incruster sur le tournage, il va se passer pas mal de choses. Vous avez des points communs avec lui ?
Ben, physiquement, on se ressemble pas mal, je trouve. Après,
j'ai vous mangez des compotes aussi, Artus ?
Non, je ne mange pas de compotes, je ne suis pas très compote. Ça a été un rôle de composition. En fait, je vais faire comme si j'allais travailler un vrai truc compliqué. Mais non, on a peut-être l'énergie, je pense qu'on a l'énergie en commun. Ce côté un peu hyperactif et besoin de toujours faire quelque chose. Et puis j'ai envie, une fois que j'ai coché une case, de me dire, ok, c'est quoi la suivante ?
Bonjour, j'ai réparé la piscine. Oula, vous avez chié dedans, quoi ?
Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin.
En plus petit ?
Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais.
Mais non !
GG, vous êtes tendu, hein. On dirait un vieux chien.
Allez.
Vous arrêtez jamais, vous.
Moi, je vais tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin. Make-up, hein. Ça veut dire on se réveille.
Un maquillage.
maquillage.
Alors, Artus, vous jouez aux côtés de Gérard Lanvin. Comment s'est passée la rencontre, vous le connaissiez avant?
Non, je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés autour d'un barbecue fait chez Philippe Guillard, le réalisateur. Et ça a matché très vite parce qu'on est tous les trois ici du rugby. On est tous les trois je pense, simple dans, dans le bon sens du terme. Et donc très vite, on a déconné. On a... Et en plus, on vivait tous ensemble dans la même maison pendant le tournage, ce qui peut être très risqué quand ça se passe pas bien.
C'est
mais
vrai.
Quand ça se passe bien, c'est chambé.
Dans la maison qu'on voit à l'écran ?
Non, une autre. Non, non, non. La prod nous avait pas mis une aussi belle maison. Quand même.
J'allais dire parce qu'elle était, elle est quand même assez sympa la maison. C'est aussi un film qui parle du métier d'acteur. Gérard Lanvin joue son propre rôle. Ça se passe sur le tournage d'un film. Votre personnage Momo découvre ce que c'est vraiment que le métier d'acteur. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui connaît pas du tout ce métier ? Comment est-ce que vous pourriez définir votre métier, Artus ?
Ben, en fait, je pense que c'est un métier qui fait vraiment rêver. Et en fait, on est forcément déçus la première fois qu'on arrive sur un plateau. Moi, la première fois que mes parents sont venus sur un plateau de tournage, ils m'ont dit « Putain, on va venir assister à un tournage de cinéma. Oui. » Puis au bout de 3 heures, ils m'ont dit « Bon, ben, on t'attend à l'hôtel. Hein. »
Oui. Parce qu'en fait, qu'il y avait eu le plan, le contre-champ, le...
Ouais,
la
c'est
divergée.
Ça. En fait, on se rend compte que mine de rien, il y a beaucoup d'attentes. Mm. C'est pas du tout la même énergie. Et moi, ben, c'est pareil, le premier rôle qu'on m'a donné, j'ai gentiment appris tout mon texte d'un coup. Et je suis arrivé, je connaissais tout. Et puis après, je me suis rendu compte que, ah oui, mais en fait, je vais avoir le temps de l'apprendre le matin au maquillage, hein, le texte. Et je vais avoir le temps de l'apprendre entre chaque prise. Donc, mais ça reste génial. Le seul truc frustrant, c'est de voir le résultat si longtemps après.
Oui, c'est vrai, parce qu'après, il faut que le film soit monté. Enfin, ouais. Il y a pas mal d'étapes. Votre personnage, donc, il découvre ce milieu, dit à Gérard Lanvin à un moment donné. En fait, c'est pas dingue, acteur, vous êtes assis toute la journée, on vous amène des cafés, des sandwichs, dès qu'il pleut, 2 gouttes, on vous amène un parapluie, et le reste du temps, vous êtes assis et vous attendez.
Ben, c'est un peu
ce qu'on vient de dire. Voilà.
C'est un peu ça. Mais c'est ce qui rend l'exercice compliqué, c'est que du coup, c'est
comme si on l'énergie.
C'est ça. C'est comme si on disait à un joueur de foot, écoute, là tu joues un quart d'heure, puis après tu sors un quart d'heure, après je te refais jouer un quart d'heure, après tu ressors un quart d'heure. Donc c'est le truc de toujours se remettre dans l'énergie et de retrouver l'énergie qu'on avait avant surtout.
Qu'est-ce que vous aimez le plus, Artus, dans votre métier ?
Ce que j'aime le plus, c'est justement jouer des différents personnages et avoir différents rôles. Là, j'ai joué un. Et là, j'ai tourné un film qui s'appelle Apache, sur le gang des Apaches à Paris en 1900, où j'avais du coup une coupe de barbe très 1900. J'ai le bureau des légendes où j'étais justement un berbe. Enfin, j'aime bien justement vraiment changer de tête. J'aime bien les challenges. Là, je fais un film au mois de juillet où je dois perdre 20 kilos. Donc voilà, ça m'excite. Je me dis, bon, ben allez, super, je les perds.
Ça sera fait.
Mais j'aime bien voilà, les costumes, le décor. Enfin, c'est magique quand on rentre sur
une vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et se dire, putain, ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais cette gueule-là.
Si vous pouviez coller au basket de votre idole, ce serait qui ? Comme votre personnage dans le film ?
Ben malheureusement, il n'est plus là, moi, celui qui me fait rêver, mais c'est Jacques Brel. J'aurais adoré être ouais, dans les coulisses de l'Olympia avec Jacques Brel.
Ouais, il devait y avoir une atmosphère
ouais, et puis c'est
un peu
un
unique.
Tel interprète, enfin, c'est fou. Je pense que voir Jacques Brel en vrai, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres artistes, enfin, qui, moi, en tout cas, m'auraient provoqué cette puissance.
Il y a une autre phrase dans le film que j'aime beaucoup, je crois que c'est votre personnage qui le... Ou peut-être que c'est le personnage de Gérard Lanvin, tiens, j'ai un doute maintenant. C'est de l'imprévu que naissent les souvenirs.
C'est mon personnage
qui le
dit, c'est la phrase que disait son père.
Son père.
Et je suis assez d'accord, parce que même dans le jeu, même dans toutes les scènes qu'on a fait plus en impro, ou dès que j'ai rajouté des vannes, ou dès qu'on a modifié des trucs et tout, ça crée forcément des moments un peu magiques et un peu différents.
Et puis même les imprévus sur le tournage, dès qu'il c'est aussi... C'est excitant, ça crée des choses
ouais,
uniques aussi.
Mais comme dans la vie, comme dans tout, ouais, c'est, dès que c'est pas prévu. C'est... Les meilleures soirées, c'est les soirées où on part à deux en se disant oh, ça va être une soirée de merde. On dit il y a personne ce soir, putain, j'ai envoyé plein de messages, il y a personne qui est chaud, on fait quoi, on va boire un coup. Et puis au final, c'est là qu'on rencontre des gens et qu'on passe la meilleure soirée.
Je crois que vous avez une anecdote d'ailleurs avec Gérard Lanvin sur le tournage, Artus, où vous êtes parti faire vos courses.
Ouais, on est parti.
Quelqu'un qui vous a forcément reconnu.
Ben non, en fait, justement, on est parti à Lidl tous les deux faire nos courses, sauf qu'on était masqués. Donc on voyait les gens qui se retournaient, qui avaient un doute, donc ils disaient mais non, et après ils disaient mais qu'est-ce que Gérard Lanvin et Artus feraient ensemble et qu'est-ce qu'ils foutraient au Lidl de Narbonne quoi.
Bah un film.
Ben voilà.
Tout
simplement. Du coup c'était ça.
Artus, est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a dit j'adore ce que vous faites ?
Je pense que c'est ma mère qui me l'a dit en tume et qui m'a dit non mais.
Les premiers fans qui vous attendaient, vous ressentiez quoi ça...
Ben je ressentais un sentiment d'erreur, de dire non, mais c'est vrai que les premières fois après les sketchs on ne demande qu'à rien, le début de la notoriété il y a un truc de t'es sûr, t'es sûr tu confonds pas avec un autre gars, non franchement ton sketch il était mortel sur le d'accord bah
cool.
Merci cool putain d'accord ok j'en mets.
Donc, et voilà, on n'est jamais blasé de ça je suppose.
Ben non on peut pas être blasé en plus ce qui est cool, moi après c'est surtout sur la partie humoriste et one man, ce qui est fou c'est de de se rendre compte que ce qu'on a ressenti pour d'autres avant, des gens le ressentent aujourd'hui. Moi, à l'époque, je pouvais citer toutes les répliques des spectacles de Gad Elmaleh. Je connaissais la tour Montparnasse infernale par cœur. Enfin, c'était les voilà. Et là, j'entends des jeunes qui parlent en utilisant des phrases de mes sketchs. Qui disent nous le Sylvain on le fait tout le temps, ils sont encore les copains machin, ils sortent des phrases où tu fais putain c'est fou, parce que du coup je dirais pas que je suis leur Gad Elmaleh, mais en tout cas il y a cette référence et tu dis c'est fou, les gens parlent en utilisant des vannes que j'ai créées.
Et peut-être que dans 30 ans, ils les utiliseront encore. Et là, on pourra dire, c'est culte. Et ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je rappelle que J'adore ce que vous faites sort au cinéma le 18 mai. Il faut absolument aller voir ce film, ce duo improbable, Gérard Lanvin-Artus. On adore, on en redemande.
Ben, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres.
Et puis surtout ce Momo, parce que vraiment, on sort de ce film, il nous manque. C'est-à-dire que même nous, en 1h30, 1h40, je ne sais plus combien de temps dure le film, on arrive à s'attacher à ce personnage.
Ben oui, parce qu'il est, il est gentil ce Momo.
Il est sympa.
On a envie de le rencontrer,
on a besoin
mais pas
de
longtemps.
Plus de Momo voilà. En ce moment. Ouais, ou pas tout le temps en tout cas.
Ouais, c'est ça, il faut voilà. Qu'on puisse l'avoir c'est quand ça. On veut.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Voilà, les carillons ont retenti, c'est la suite de Clap. Merci d'être à notre écoute sur Europe 1. Je suis en compagnie d'Artus qui sera à l'affiche le 18 mai de J'adore ce que vous faites, un film de Philippe Guillard où vous jouez Artus aux côtés de Gérard Lanvin. Une belle expérience, un bon souvenir ?
Bah oui, tourner avec Gérard, c'est quand même un monstre du cinéma. Donc,
vous êtes resté en contact ?
Ouais, on est très proches, non, vraiment. Et ça a tout de suite matché... je vais pas dire un rapport père-fils parce que moi tout va très bien avec mon père et lui tout va très bien avec ses enfants, donc il n'y a pas eu ce truc de on a fait une projection, mais ouais, ça a tout de suite matché, on s'est hyper bien entendu et puis il m'a détendu parce que quand même quand moi je passe derrière Poulvord avec le boulet, je passe derrière Blanc sur Marche à l'ombre, enfin voilà, je passe quand même derrière des gens où tu fais ok, va falloir être bon.
Des sacrés binômes. Bon, on va parler des films de votre vie. Si vous êtes d'accord.
Mais je suis là pour ça. Allons-y.
C'est vrai, ça tombe un bien. Peu. Hein. Ça m'arrange. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma, Artus.
La liste de Schindler. Parce que je trouve que c'est un film qui a montré toute l'horreur de cette époque, mais d'une façon réaliste et d'une façon voilà. Enfin, je trouve que c'est un film qu'il faut avoir vu et qu'il faut voir. Comme Hôtel Rwanda, c'est des films qu'il faut avoir vu, je pense.
Film de Steven Spielberg. Voilà, on entend la. La musique de la liste de Schindler.
Ah, la musique est juste, juste folle. Hans Zimmer.
Ouais. Comme... Film aux 7 Oscars. Voilà. Meilleur film, meilleur réalisateur. Je pense qu'il y a eu la meilleure musique.
Les musiques de films, c'est fou. Moi, j'écoute beaucoup ça dans mon... Ma playlist, c'est principalement Hans Zimmer et tout ça, parce que je trouve que ça rappelle tellement de choses. Et puis c'est fou, quoi.
Ah bah, avec la musique, on a les images qui reviennent tout de suite. Et ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup. Si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma ?
Bon, Mary Poppins.
Pourquoi ?
Parce qu'il fait rêver, parce qu'on a envie que ce monde existe, parce que... À l'époque, je voulais être ramoneur en Ferrari, suite à Mary Poppins, ouais. Quand j'étais enfant. Puis après, je me suis rendu compte que le balai de ramoneur rentrait pas dans le coffre de la Ferrari, donc j'ai changé de branche.
Et vous avez dit, bon, du coup, comédien.
Mais ouais, et puis les comédies musicales. Moi, je suis fan de comédies musicales, oui. Et c'était la première.
Avec Julie Andrews.
Ouais, celle-là, elle m'a marqué. Ah.
Parce que j'avais en étant pris pas envie de parler. Papa en rage m'a tordu le nez et se mit à me blâmer. J'ai pu faire la belle invention de Strelo, mon recommandé pour la prononciation. Hey, supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Ouais, c'est sans fin. Hein.
Ah ouais.
On adore.
Puis la scène, c'est tellement magique. Ils ont créé une scène où dès que t'as un fou rire, tu voles.
Oui.
C'est quand même fou, c'est tellement poétique, c'est tellement... Dès que tu rigoles, tu te retrouves au plafond à boire du thé et machin parce que t'es en fou rire. Enfin, je trouve ça génial.
Si je vous demande votre séance de cinéma la plus dingue...
Bah, Avatar, mais parce que... Avatar, c'était fou. C'est la première fois que je vivais une expérience au cinéma où vraiment, je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir, là ? Et attends, j'y retourne. Et j'ai pris moi un billet.
C'est
pas vrai. Ouais, j'y suis retourné tout de suite parce que l'histoire, on s'en fout. L'histoire, elle est... Enfin, l'histoire, on l'a vu mille fois, c'est voilà, c'est Pocahontas, c'est l'histoire, elle est... mais c'est cette claque visuelle. C'est la première fois déjà que je trouvais que mes lunettes 3D que j'avais payé 2 balles à la caisse avaient une vraie utilité. Et là, Avatar, c'était vraiment... Tu marchais avec eux dans la forêt, oui, t'avais des trucs. Enfin, c'était fou, quoi. C'était vraiment fou.
Vous savez qu'il y a le 2 qui sort.
Ah ben, j'irai le voir. Oui, mais là, il va nous faire encore un truc, James Cameron.
Ça va être énorme.
Ça va être en 4D avec du vent dans la gueule. Et...
Sauf que maintenant, il y a les cinémas, il y a des certaines salles de cinéma partout en France qui sont adaptées avec le son, on vibre, on ressent tout.
Il y a l'odeur et tout.
C'est génial. Le film qui vous fait le plus rire ?
OSS, le premier OSS. Je trouve qu'il est arrivé à un moment justement où on commençait à nous dire attention, faut pas rire de tout. Mmh. Et il est arrivé en mettant un gros coup de pied dans la gueule dans tout ça et ça fait du bien.
Attends, raciste, misogyne, il est tout. Hein,
Mais on adore. Et il n'y a pas eu de problème et non. Le perso passe parce qu'il est tellement caricatural que. Et puis pour moi, c'est la meilleure performance de Dujardin de tout.
C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ouais. J'aime me beurrer la biscotte.
Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner.
Moi, ma phrase préférée, c'est « s'agirait de grandir ». Mais parce qu'elle vient à la fin de toute la tirade de la chicha. Où il est défoncé comme ça. Et vos femmes, elles sont jolies vos femmes. Il faut arrêter de les mettre sous les draps comme ça. Et puis, il donne des leçons à tout le peuple. Il dit « s'agirait de grandir ». S'agirait de grandir. Et il le fait tellement bien, Jean Dujardin.
Hyper bien. Il est très, très drôle. Le film qui vous fait tomber amoureux de son actrice ?
Moulin Rouge, mais il ne me fait pas tomber amoureux de son actrice, mais de son acteur.
Ah.
Ouais, Moulin Rouge, Evan McGregor, quand il veut, dans l'éléphant, en dehors de l'éléphant, quand il veut.
C'est vrai qu'il est incroyable.
Ah, ouais. Mais parce que pour le coup, c'est pas une. J'aime beaucoup Nicole Kidman, mais c'est pas une beauté qui me parle. Et son jeu, je trouve qu'elle joue très bien, mais elle ne me procure pas plus d'émotions que ça. Alors qu'Evan McGregor dans Moulin Rouge, franchement.
Il est sexy.
Ouais.
Et puis c'est Baz Luhrmann. Et Baz Luhrmann revient à Cannes cette année avec Elvis, que j'ai hâte de voir, j'ai pas vu encore.
Pas vu non plus.
Le film qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Je l'ai cité tout à l'heure, mais Hôtel Rwanda. Mmh.
Je l'ai vu, encore une page de l'histoire, génocide rwandais.
Ouais, je l'ai vu tard en fait, c'est marrant. Je l'ai vu tard et en plus c'est un truc, enfin c'est un génocide qu'on, nous, Européens, on connaît pas plus que ça, aucune... Parce que dès que ça sort de nos frontières, on regarde moins.
Ça intéresse moins.
Et c'est fou, quoi. C'est fou comme la barbarie peut être forte. Enfin, c'est des gens du même peuple. Et juste parce que c'est une guerre de voisins, en fait.
Votre comédie romantique préférée ?
Amour et amnésie. Il y en a plein, évidemment. Évidemment, on a Coup de foudre à Notting Hill, on a tous ces trucs-là. Mais je trouve qu'Amour et amnésie, c'est une vraie comédie. Il y a vraiment du rire dedans. Et puis, je trouve la morale... tellement belle, parce que c'est pas un film qui finit en happy end. C'est pas un film justement où ça y est, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, ça se finit bien, mais en fait c'est elle perd la mémoire tous les jours, tous les soirs elle s'endort et tous les matins elle se réveille, elle a plus de mémoire. Et à la fin du film, c'est pas résolu ce problème, c'est pas ça y est, elle a retrouvé la mémoire, tout va bien. non, c'est le mec va vivre toute sa vie et il va tout faire chaque jour de sa vie pour que sa femme se souvienne de lui, pour qu'elle retombe amoureuse de lui, enfin, et je trouve que c'est du coup, ouais, c'est charmé, parce qu'il n'y a pas de vraie belle fin.
C'est avec Adam Sandler et Drew Barrymore, qu'on aime aussi beaucoup.
Tout à fait.
Le film que vous conseillez à un enfant ?
Wall-E.
Oh, j'adore.
Ouais.
J'ai pleuré, moi, devant Wall-E.
Bah, il est magnifique.
Il est tellement mignon. Fait très bien.
C'est gentil.
Il arrive à nous émouvoir. Il a quasiment pas de dialogue. Non. Voilà, des petits bruits comme ça.
Mais il a un regard. C'est pareil, c'est un robot.
Son regard.
En fait, il a rien d'humain sur le papier et il est tellement humain. Et puis surtout, c'est
dans un... Il tombe amoureux de la robot.
Il tombe amoureux, pareil, d'un robot qui ressemble à un gros suppôt blanc où il n'y a rien. Enfin non, mais tu vois, visuellement, il n'y a rien.
Parce qu'il est seul.
Et c'est un éboueur qui fait des...
Il trie les déchets tout seul parce qu'il n'y a plus personne sur la Terre.
En fait, le seul personnage humain dans ce film, c'est lui. Et puis c'est tellement... c'est aussi un message sur... Enfin, je trouve que c'est un des films les plus engagés qu'ils aient fait, Pixar. Et voilà, je pense que pour les enfants, c'est bien de le voir, Wall-E.
Un message sur l'environnement, l'écologie, la solitude, tout.
Voilà, enfin, il est parfait, Wall-E.
Ouais, on l'aime. Le film que vous avez le plus vu ?
Il y en a deux, mais La Tour Montparnasse Infernale et La Cité de la Peur.
Bon, culte, hein. De toute façon, ça, c'est de l'humour, l'humour qu'on aime, qui nous manque.
Mais vraiment,
l'humour
je pense que.
Qu'on pouvait tous permettre.
Ouais, mais à l'époque, je pense que vraiment, je pouvais faire les deux films entièrement.
Ça va ensemble, hein.
Entièrement dialogués.
Avec les trois frères.
Ouais, avec les trois frères, évidemment.
Voilà. Et là, on est bien. On a passé une bonne journée.
Évidemment.
Une réplique culte, Artus ?
Dans les Sept Mercenaires, j'aime beaucoup les westerns aussi, et dans les Sept Mercenaires, je me souviens, il y a un moment où ils recrutent en fait des mecs pour protéger le village des Mexicains, et donc il y a les petits Mexicains qui sont avec Yul Brynner comme ça dans le bar, et les Mexicains voient un mec avec plein de cicatrices sur la tête, et ils font « Regardez, señor, c'est lui qu'il nous faudrait avec toutes les cicatrices qu'il a sur le visage. » Là, il y a Yul Brynner qui lui dit très calmement, il fait « Non, celui qu'il nous faudrait, c'est celui qui lui a fait ces cicatrices.
» Génial. Bravo. La bande originale de film que vous écoutez pour vous mettre de bonne humeur, pour faire du sport, pour vous motiver.
Pour être de bonne humeur, c'est This Is Me de Greta Schumann. This is me, avec blam, il y a tout qui démarre. Parce que pour le coup, les instrus et les comédies musicales américaines, ils sont... Enfin...
Très forts.
Ah ouais. En plus, c'était pile le moment où il y a la petite virgule, le petit truc qui relance là.
Et ils arrivent tous... Ce film était dingue, il n'a pas eu le succès qu'il méritait, je trouve.
Ouais, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il l'a eu après, parce que ça a quand même
après,
été...
Après, ouais. La BO, surtout.
La BO, ça a quand même été la chanson la plus écoutée, je crois, de l'année où c'est sorti. Mais je pense que c'est un film qui va rester. Mais comme Moulin Rouge, au moment où il est sorti, ça n'a pas été un succès,
un
je crois.
Succès.
Ouais, c'est des films qui restent. La comédie musicale, c'est particulier. Hein.
Moi, j'aime beaucoup, je suis comme vous.
Ouais, moi, j'adore. Mon Graal, c'est de faire une comédie musicale, que ça soit sur scène ou ouais, mais que après c'est compliqué à monter en France et tout parce qu'on n'a pas cette culture. Mais sur scène, j'adorerais créer une vraie comédie musicale, un peu à la Book of Mormon, c'est un peu barré, un peu drôle.
Il faut le faire.
C'est
en projet. J'ai l'impression.
Je fais tout pour.
C'est dans les tuyaux. Quel serait le titre du film de votre vie, Artus?
Je dirais et pourquoi pas.
Bah oui.
Ouais, et pourquoi pas, et pourquoi, parce
c'est
que
une
moi à la base.
Philosophie de vie.
Ben, c'est même pas ça, c'est que en fait moi j'ai rien calculé, moi je suis cuisinier à la base, j'avais dans ma tête tout pour aller dans la cuisine et ça me plaisait.
Vous aimiez ça, ouais, c'est ça.
Et puis c'est mes parents qui m'ont un peu jeté là-dedans en me disant mais essaye, maintenant que t'as ton diplôme de cuisto, essaye. Je me suis dit mais non, mais c'est pas un métier, j'ai pas le truc, j'ai pas les cheveux longs, je mets pas des répétos, et je sais pas, voilà, je suis pas parisien, je fais pas au Conflans. Et pourquoi pas, et donc voilà, et à chaque fois c'était un peu ça, c'était tu veux faire Danse avec les Stars, ben, et pourquoi pas, viens. Tu veux pas passer le casting du Bureau des Légendes? Ouais, pourquoi pas? Allons-y. Et donc voilà, je pense que ça serait un bon titre.
Ok, et vous voulez revenir dans Clap bientôt?
Eh bien écoute, non, avec plaisir.
Ah, merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup Artus, c'était un vrai plaisir. Je rappelle donc la comédie J'adore ce que vous faites sera au cinéma le 18 mai et vous revenez quand vous voulez parce qu'on vous aime beaucoup Artus.
Eh bien moi aussi, je vous aime beaucoup.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Ravi d'être avec vous, vous êtes bien à l'écoute de Clap et on parle maintenant des sorties de la semaine. Alors préparez votre plus beau sourire et votre passeport pour un voyage en famille inattendu. On parlera aussi d'une légende viking, une histoire de violence spectaculaire avant de terminer par deux histoires vraies, une comédie fermière et une autre totalement différente, le portrait anxiogène d'un tueur. Et pour en parler autour de cette table, ils sont là depuis le début de l'émission, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
Bonjour, bonjour.
Les garçons, bonjour, bonjour, rebonjour, bonjour. Je vous fais pas l'affront de vous demander qui est leader du box-office?
Ne serait-ce pas un film avec une cape et des super-héros?
Évidemment, vous le savez.
Ah oui, Doctor Strange 2.
Ouais, raz-de-marée pour Doctor Strange qui en seulement 7 jours a attiré 1 438 000 spectateurs, donc immense succès pour le film
c'est
de
très,
Sam
très
Raimi. Ouais, c'est assez énorme. Et fatalement, la concurrence est relayée loin derrière avec à la deuxième place...
Oh là là, alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est un film d'animation?
Oui.
Oh,
non, c'est pas un film. Enfin,
oh là, non, je ne sais pas du coup.
Les Animaux Fantastiques.
Ah
c'est
oui,
pas
bah
d'animation,
non, c'est pas un film d'animation.
Mais il y a beaucoup de...
Oui, mais c'est
oui,
gros blockbuster américain.
C'est pas un film d'animation, oui. Un peu moins de 200 000 entrées cette semaine, un cumul de 2 400 000 entrées
où
en un mois.
Où sont les cinéphiles? Ils sont plus en salle, hein. Il n'y a plus que les jeunes qui y vont en gros, quoi. Hein
alors j'allais dire en troisième position, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?
Où sont les cinéphiles?
Qui a fait rire 132 000 spectateurs supplémentaires, donc 2 100 000 à peu près en 5 semaines. Je vous arrondis tout ça. Hein.
Oh, oui,
et,
ouais.
Et puis enfin,
un
petit
plus,
mot...
Je vous le mets quand même.
C'est vraiment ça, tu vois.
Un petit mot sur Ténor avec Michel Larocque, MB14, que nous recevions il y a 2 semaines, qui échoue au pied du podium avec 126 000 entrées, 348 et des poussières. Bref, on parle des films à voir ce week-end au cinéma. On recevait Pascal Arbillot la semaine dernière pour parler d'un premier long métrage de François Usant. On sourit pour la photo. Pour rappel, l'histoire d'un couple au bord de la rupture. Jacques Gamblin, le problème, c'est qu'il est obsédé par ses albums de photos. Il trie ses photos de famille. Il en oublie sa femme et ses enfants. Jusqu'au jour où Pascal Arbillot, qui joue sa femme, décide de le quitter et lui propose à sa famille de revivre Grèce 1998.
Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo, photo.
Sympa les vacances en camion poubelle.
Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans.
Top chrono.
La même magie.
Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule.
Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. C'est à s'en foutre.
Franck ?
Usan s'est très inspiré de sa vie personnelle. Attention, pas tout, hein, bien sûr. Mais ce qu'il y a de très touchant, en fait, dans ce film-là, c'est que sous prétexte d'une comédie, on va dire, traditionnelle, en fait, le film est bien plus psychologisant qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire que ça traite de sujets extrêmement sérieux. Un souvenir est-il fait pour être recréé ? Doit-on courir après le passé ? Faut-il divorcer, accessoirement aussi, mais bon.
On écoute vos réactions, on sent le vécu.
C'était un bon film qui m'a plu.
J'ai bien aimé, c'est un bon moment de détente. Hein. Moi j'aime beaucoup voyager, donc il n'y a pas de souci, oui.
Très sympathique, ça change complètement les idées. Je suis un peu de la même génération, Gamblin, tout ça. Ça fait des souvenirs d'une époque et ça fait beaucoup de bien.
Et on continue avec The Northman, un film de Robert Eggers. Je sais que Victor...
Je trépigne.
Est-ce que tu veux nous faire le pitch alors ?
Alors, The Northman, c'est l'histoire... Mais le pitch, c'est très simple. C'est une quête de vengeance. Un enfant a vu son père se faire assassiner et sa mère enlevée.
Le jeune prince Hamlet.
Exactement, il s'appelle Hamlet dans les pays nordiques, c'est vraiment viking. 20 ans plus tard, il décide enfin d'appliquer sa vengeance. Lui, devenu guerrier berserk, il rentre dans un convoi d'esclaves qui se dirige vers l'assassin de son père en disant « Ça y est, je vais enfin me venger. »
Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai.
Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale ?
Pour retrouver ce qu'on m'a volé.
Qu'est-ce que c'est ?
Le royaume. Nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment.
J'adore.
Bah oui, moi aussi j'adore le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le troisième film de Robert Eggers qui avait déjà fait The Witch et The Lighthouse. Et c'est vraiment son film le plus accessible, je pense, parce qu'il a une trame très simple, à savoir cette quête de vengeance. Mais en fait, c'est bien plus riche que ça en a l'air, puisque derrière justement tous ces aspects-là, bah déjà, il se permet d'assumer une époque qui est extrêmement cruelle, avec un premier degré dans la violence. Alors n'y allez pas avec vos enfants, c'est vraiment extrêmement radical à ce niveau-là, extrêmement cruel. Mais en même temps, il y a encore tout ce côté ésotérique. On a Björk qui vient jouer une sorcière au milieu et qui va nous donner justement des prophéties. Et c'est là tout l'intérêt du film. C'est un film qui questionne le destin et qui pose la question de est-ce que tout est tracé comme dans le cinéma, est-ce que tout devrait être tracé, et qui vient continuellement déjouer nos attentes, qui vient continuellement nous surprendre dans la dernière partie. Et je trouve ça assez brillant ce que fait Robert Eggers et la manière dont il développe son cinéma de film en film.
Avec Alexander Skarsgård.
Tout à fait.
Génial. Non,
et puis avec casting,
William Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke.
Il y a quelqu'un en plastique qui ressemble à Nicole Kidman.
Bon, ça fait 20 ans que c'est ça. Allez, la pauvre.
Franck, un mot sur le film.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Victor, sur ce réalisateur est absolument extraordinaire. J'aimerais qu'il ait 20 ans de plus pour assumer une maturité en termes de cinématographie un tout petit peu plus avancée. Certes, il est bloqué par un casting tellement maousse qu'il faut, délivrer quelque chose qui soit recevable du plus grand nombre. Mais par exemple... je n'ai pas du tout marché à l'iconographie des Valkyries, mais peu importe. Je trouve que son rendu est très joli. Malheureusement, l'histoire de la vengeance, on n'y croit pas une seconde. Il y a deux twists, on ne les dira pas. Les voit venir, mais avec des gros sabots. Et alors après,
c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je dis. C'est pour ça que la trame est simple. C'est justement parce que la trame n'est pas la partie la plus importante. Ce qui intéresse Robert Eggers dans son cinéma, c'est de développer des univers. C'est ce qu'il faisait sur The Witch, c'est ce qu'il faisait sur The Lighthouse, et là, c'est ce qu'il fait aussi.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'on est loin d'un esprit revanchard à la Rocky, à la Braveheart.
Parce que c'est pas le but.
Oui, mais si c'est l'histoire d'une revanche, on n'est pas emporté. J'aurais aimé être un peu plus emporté. Et à vrai dire, tu sais, je crois...
On s'emportera.
Je crois que je sais pourquoi je n'ai pas été assez emporté, parce que dans le même registre, il y a un film qui m'a tellement emporté loin, qui s'appelle Valhalla Rising, par Nicolas Winding Refn, indéniablement, ce film-là ne lui arrive pas à la cheville. Mais ça reste un film très, 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 très bien. Attention. Voilà, il ne faut juste pas avoir vu Valhalla Rising.
Là, il faut...
On écoute vos réactions.
C'était une claque visuelle et même narrative, bluffant, de la psychologie, de l'émotion, vraiment intense. Alexandre Skarsgård, l'acteur principal, ça fait du bien de le voir purement bestial. Là, c'est une bête sanguinaire.
Très épique, très sanglant aussi.
C'est très bien joué, Björk est exceptionnel et l'univers scandinave est exceptionnel.
On a l'impression qu'on va voir un film mille fois déjà vu, classique, et en fait, chaque scène déconstruit ce qu'on s'attend à voir. Vraiment, c'est brillant, ça sert à ça le cinéma et notamment les salles de Cinoche.
Alexander Skarsgård, si ce nom comme ça ne vous dit rien, vous l'avez vu dans la série Big Little Lies ou encore dans la série True Blood.
Oui, génial, il fait partie de toute la lignée des Skarsgård avec son père qui était Bill Skarsgård et puis son frère qui jouait le clown de ça.
On n'a pas parlé de Claes Banks aussi qui est super.
Oui,
qui jouait le héros de The Square notamment.
Bon, là on passe dans un tout autre registre.
Tout à fait.
Plus gai, plus léger, ça s'appelle Les Folies Fermières. C'est une histoire vraie, improbable, qui se passe à la campagne où un cabaret ouvre dans une ferme. Oui, Victor.
Alors, plus gai, plus léger, je suis pas sûr.
Ouais.
Peut-être pas dans le fond, mais en tout cas, visuellement, c'est...
Ouais, mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant avec Les Folies Fermières.
C'est vrai, on va en parler dans quelques instants. Juste un mot, donc le fermier c'est Alban Ivanov et il a eu donc cette idée folle d'ouvrir un cabaret dans une ferme pour sauver sa femme après avoir rencontré Bonnie, une artiste du spectacle qui est jouée par la magnifique Sabrina Ouazani.
Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois.
4, 2.
Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver.
Alors que les choses soient bien claires. 1, je ne participe pas aux travaux de la ferme. 2, l'artistique c'est moi. Et 3, je ne couche pas.
Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici.
Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre.
Ah, faut peut-être se demander pourquoi.
Hein. Non, mais c'est intéressant, Les Folies Fermières, pour le coup. Alors, ça ne m'intéresse pas en termes de réa, ça ne m'intéresse pas en termes de jeu d'acteur. Alors, tout ça ne m'intéresse pas du tout dans le film. Mais j'ai été surpris, en fait, parce que derrière la jolie comédie, c'est quand même un film qui vient aborder le désespoir des paysans français, qui aborde frontalement dans un film grand public le fait qu'il y a des paysans qui se suicident tous les ans parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vachement plus profond sur ce que ça peut raconter. En fait, je trouve ça important. Je trouve le film plus important que bien réussi en termes de réa. Réalisation et de cinéma.
Il faut rappeler que Jean-Pierre Améris avait notamment fait Les Émotifs Anonymes avec Paul Vord et Isabelle Carré. Non seulement c'est un être humain extra, c'est sans doute l'un des réalisateurs les plus sympathiques que j'ai eu l'occasion avec lequel j'ai pu discuter.
Franck Vallière connaît des gens.
C'est quelqu'un qui vient du bas peuple, enfin qui n'est pas bien né ou qui n'est pas issu de ce sérail-là et qui n'a de cesse de développer des choses extrêmement populaires sans être populiste concernant non pas des minorités mais justement la majorité invisible, pas celle qui vit dans des appartements de 200 mètres carrés. Les gens d'en bas, il y a une personne handicapée dans ce film. Il y a des gens qui sont en désœuvrement social.
Il y a une personne transformée, il y a une personne qui a commencé très bas comme escorte et qui fait d'autres choses aujourd'hui. C'est passionnant, en fait, justement, le prisme de la société française qu'il aborde.
Voilà, et c'est des gens qu'on ne voit quasiment jamais au cinéma.
Voilà, donc Les Folies Fermières, c'est à découvrir aussi ce week-end au cinéma. Et puis Nitram, un thriller psychologique assez dur, dérangeant, qui avait été présenté au Festival de Cannes en 2021 avec l'acteur principal Caleb Landry-Jones qui a reçu le prix d'interprétation masculine. C'est une histoire vraie, celle de l'itinéraire tragique d'un jeune homme dérangé et incompris devenu un tueur de masse en Australie. Rapidement,
je dirais que c'est un film malhonnête pour le coup. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse parce qu'il a une réalisation de téléfilm Sundance comme on en a vu 100. Caleb Landry-Jones joue extrêmement bien à l'intérieur. Le seul truc qui m'embête, c'est que moi, quand je l'ai vu à Cannes, là, tu le disais dans le synopsis, je savais pas que c'était un tueur de masse. Et donc pendant 1h20, je vois un film qui essaye de me faire ressentir de la sympathie pour un personnage en mode regardez comme il est gentil, regardez comme il est sympa, pour ensuite aller le voir massacrer des gens. Donc ça peut désarçonner, des gens peuvent rester en dehors en disant j'ai pas envie de voir ça. Moi personnellement je trouve que c'est pas mal fait, mais je peux pas m'empêcher de garder en tête que même un an après je trouve toujours le film assez malhonnête quoi.
On écoute vos réactions.
C'est dur comme film, mais très bien filmé, très bien joué, et on n'imagine pas que ça va aller jusqu'à ce drame à la fin.
Voilà, c'est une vraie performance d'acteur, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé, c'est très très intéressant et j'ai beaucoup aimé.
C'est un film très fort où vraiment on se met à la place d'une personne qui vit de manière complètement hors norme et finalement on a beaucoup d'empathie pour ce personnage. Je trouvais que c'est un très beau film.
À voir également ce week-end au cinéma un magnifique documentaire tourné pour vivre sur un réalisateur que l'on adore ici et qu'on a reçu il y a quelques semaines, c'est Claude Lelouch. Pendant 7 ans, Philippe Azoulay, réalisateur, lui aussi l'a suivi dans ses bureaux, sur ses plateaux. Il a filmé sa passion, son amour du cinéma pendant ses tournages, les réunions. On suit toutes ses créations. On le voit également en interaction avec son plus grand fan, Quentin Tarantino, avec des acteurs comme Jean Dujardin. C'est un très joli moment de vie à découvrir au cinéma. Voilà, c'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux, mais on se retrouve la semaine prochaine. Depuis le Festival de Cannes.
Oh.
Je vous rappelle que mon invité aujourd'hui était artiste pour parler de la comédie. J'adore ce que vous faites qui sortira mercredi prochain au cinéma. Et tout de suite, vous retrouvez William Lémergie. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, on espère, sous le soleil de Cannes.
Oui, bon week-end.
Bonne semaine à vous, à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Clap. Laurie Choléva.